Vous écoutez RTL.
Allez, tout de suite, on monte à bord de l'Astrolabe sur RTL. Bonjour Stéphane Dugast.
Bonjour.
Bienvenue.
Bienvenue, merci. Vous êtes journaliste, réalisateur, passionné par les océans et le monde polaire. L'Astrolabe, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez déjà nous décrire ce bateau? C'est un brise-glace, c'est ça?
C'est un... Pas tout à fait. En fait, c'est un bateau qui était apte à franchir les glaces. C'est le troisième du nom. C'est un bateau qui a été mis en service pour les expéditions polaires françaises à l'époque, qui sont devenues l'Institut Polaire Polémique Victor, l'IPEV. Mmh. Et c'est un navire logistique, avant tout, et qui acheminait hommes et matériel à destination de la Terre Adélie et à destination de la base scientifique française du Mont d'Urville.
Pourquoi différent d'un brise-glace? C'est différent?
Alors, les marins sont très tatillons, puisque les navires sont classés en certification. Ouais. La capacité à se frayer un passage, en fait, dépend de l'épaisseur de la banquise, donc de cette eau de mer qui gèle. Et le troisième du nom, l'Astrolabe, lui, avait un certificat pour passer les glaces, mais pas pour les briser.
Ça fait combien d'années, Stéphane Dugast, que les navires d'exploration français portent ce nom, l'Astrolabe?
C'est 230 ans de tradition maritime, c'est beau, c'est fort. Mmh.
Et c'est ce qu'on va raconter tout de suite sur RTL. À tout de suite, les curieux.
La curiosité n'est vraiment pas un vilain défaut.
Les manchots Adélie, curieux de tout, sont les premiers à accueillir l'Astrolabe. C'est le début de l'été austral. La glace commence à fondre et permet au bateau d'atteindre enfin nos bases.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Après avoir affronté les 40e rugissants, les 50e hurlants et les 60e mugissants, les océans les plus dangereux.
Soyez fiers d'être curieux.
Avec son arrivée, notre huis clos de 7 mois s'achève. Nous reprenons contact avec le monde extérieur. Ça donne toujours un peu le tournis.
Avec RTL.
C'est un bateau mythique qui nous accueille, vous venez de l'entendre. Bienvenue à bord de l'Astrolabe, le navire d'exploration français de toutes les missions polaires. Pour embarquer, on est accompagné par le journaliste et réalisateur Stéphane Dugast. Alors, avant de se lancer en mission, si j'ose dire, il faut rappeler ce qu'est l'objet. Un astrolabe, c'est quoi un astrolabe?
Un astrolabe, c'est un instrument de mesure qui était utilisé dans les temps anciens, dans l'Antiquité, et qui était un instrument qui permettait, grâce aux étoiles, de calculer l'heure, qui était très utile à l'époque où il n'y en avait pas de montre et encore moins de digital.
Ouais, alors j'ai eu la chance de visiter ces derniers jours le Louvre à Abu Dhabi, et il y a notamment...
Vous en avez vu un?
Il y a plusieurs astrolabes, ouais, qui sont exposés, et ce sont des objets magnifiques qui sont très complexes, et on a du mal à imaginer qu'il y a si longtemps, plusieurs siècles, on était aussi féru d'astronomie pour réussir à... Parce que c'est comme ça, c'est grâce aux astres qu'on trouvait son chemin avec l'Astrolabe, c'est ça ?
C'est carrément grâce aux astres, et pour l'hémisphère nord, c'est grâce à l'étoile du nord qu'on arrivait à... L'étoile polaire, pardonnez-moi, ouais, qu'on arrivait à trouver, si j'ose dire, son nord et à ne pas perdre le cap.
Stéphane Dugast, vous publiez avec Daphné Buiron, à bord de l'Astrolabe, le passeur de l'Antarctique, c'est aux éditions EPA. À quoi il sert ce navire ?
Ce navire, avant tout, il a été fait, c'est un navire logistique, c'est pour transporter des personnes et du matériel depuis Hobart, donc cette petite île au sud de l'Australie, et vous foncez plein sud vers le continent antarctique, et en bordure du continent antarctique, à quelques 10 km, vous avez l'île des Pétrels, et sur cette île des Pétrels, vous avez la base du Mont d'Urville, base scientifique française du Mont d'Urville, dite DDU, et là, l'Astrolabe faisait 5 rotations par an pendant l'été austral, donc l'hiver chez nous, en acheminant matériel.
Quel genre de matériel il achemine? Et pour quelle personne? Qui travaille sur cette base?
Sur cette base, vous avez des logisticiens qui sont au service de scientifique, donc le matériel, c'est du matériel scientifique, mais c'est aussi de la nourriture, c'est aussi du matériel pour travailler, des engins, des tracteurs, des tractopelles, bref, c'est un peu l'arche de Noé.
Bon, vous êtes tous d'accord, on embarque.
Allez, c'est parti.
Ok, vous êtes d'accord, vous allez voir, parce que c'est sportif de naviguer à bord de l'Astrolabe, pourquoi ?
Puisque vous franchissez les 40e rugissants, les 50e hurlants, vous êtes dans des montagnes russes, puisque autour de ce continent antarctique, il n'y a pas de terre, donc vous avez un train de houle, vous avez des vagues qui sont assez énormes, et je prends l'image des montagnes russes, puisque vous vous rendez bien compte qu'en fait, si la tempête souffle, ça devient vite des grosses, grosses tempêtes.
D'ailleurs, il a un joli surnom, l'Astrolabe.
Le Gastrolabe, effectivement.
C'est sympa, ça.
Puisque nombre de ses passagers, et même des marins, étaient malades, avaient le mal de mer, étaient malades à bord.
Et qu'est-ce qu'on peut faire contre le mal de mer dans cet Astrolabe? Il y a des
À part se jeter
pratiques,
sur les sacs disséminés.
Sacs, voilà, des petits sacs à vomi.
Rien, Sidonie, rien, Thomas. Non, on est tous inégaux dans le mal de mer. Néanmoins, il y a des grands marins qui ont avoué avoir le mal de mer. La seule solution, c'est de s'allonger et de laisser passer le temps, mais je vous prie de croire que c'est long, ou sinon c'est essayer de dominer ce mal de mer, mais c'est assez terrible.
Ouais, l'océan austral, c'est vraiment l'un des plus redoutés des marins, et vous le racontez dans votre livre, il est parfois très violent. Que s'est-il passé notamment en 1989 à bord de l'Astrolabe?
Là, on est en pleine montagne russe, la tempête va se lever, et quand la tempête va se lever, les vagues vont être très très longues, mais très 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 cassantes, et vous aviez un porte-container à l'arrière, qui était un petit peu peu vide, qui arrêtait pas de bouger avec le mouvement des vagues, donc de l'avant du bateau à l'arrière, on appelle ça le tangage, et puis de gauche à droite, de bâbord à tribord, donc le roulis. Et au bout d'un moment, les attaches du porte-container vont exploser, le porte-container va s'encastrer dans la porte arrière, on est sur la plateforme hélicoptère, la porte va carrément sauter, et donc vous allez avoir un trou dans le bateau dans lequel vont s'engouffrer des paquets d'eau. Et donc tout l'équipage va être mobilisé pour calfeutrer comme ils peuvent, puisque sinon, vous vous rendez bien compte que si vous avez une voie d'eau, comme disent les marins, vous pouvez couler.
Mais il est protégé par qui, cet astrolabe ? Qui peut venir sauver les marins en cas d'accident, d'avarie ?
Là est bien le problème. Les plus proches voisins, c'est la Tasmanie, c'est l'Australie, c'est aussi les Néo-Zélandais. Donc on le voit aussi pendant les courses au large, au Vendée Globe, que mais ce sont des avions de patrouille maritime néo-zélandais ou australiens qui vont un petit peu localiser les soucis.
Ce jour-là, en 89, le navire aurait pu couler. C'était vraiment limite ?
C'était complètement limite. On a eu les témoignages de plusieurs marins, dont le commandant Dodon. Et le commandant Dodon a même failli passer par-dessus bord, ce qui était la fin des haricots, parce que quand vous passez par-dessus bord pour vous récupérer, et en plus le commandant, le capitaine, et ils vont tous faire preuve de solidarité, puisque quand on est en mer, on est tous égaux, et quand on est face au danger, on met tous la main à la tâche.
On s'amuse aussi pourtant sur l'astrolabe, mais à quoi jouent les membres d'équipage ? Quel défi veut-on être le premier à relever ? Réponse dans un court instant sur RTL.
Bienvenue sur RTL, les curieux.
Pour moi, il a un brise-glace puisqu'il peut franchir la glace. Et c'est un bateau rondouillard qui a un faible tirant d'eau.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Ses caractéristiques, il est un peu fort des hanches, il arrive à se faufiler tant bien que mal.
RTL.
C'est un bateau qui permettait à des gens de quitter la civilisation, d'avoir un voyage véritablement initiatique.
Si votre défaut, c'est la curiosité.
Donc c'est vraiment, là, vous avez tous les ingrédients d'un bon film d'aventure.
Alors vous êtes bien sur RTL.
La curiosité, c'est le 14-15h sur RTL, une émission où on aime l'aventure avec un grand A, bien sûr, parce qu'avec un H, ça serait moins joli, aventure. Démonstration cet après-midi avec notre invité Stéphane Dugas qui nous embarque à bord de l'Astrolabe, qui est donc rondouillard, d'après vous.
Vous êtes en train de nous dire qu'il a un gros cul, quoi, c'est ça ?
Pardon. De toute façon, très littéraire.
Ah, oui, voilà, c'est ça.
Le navire d'exploration polaire, il y en a eu 4, dont le premier qui a été mis à l'eau par Louis XVI. On va visiter un peu ce troisième Astrolabe, celui que vous décrivez dans votre livre. Combien de personnes à bord ?
C'est une quarantaine de personnes, c'est tout un équipage de marins, on peut dire une vingtaine. Et derrière, vous avez des hivernants donc qui vont aller hiverner à Dumont-d'Urville, qui sont logisticiens, donc au service de scientifiques ou des scientifiques, et qui partent pour une période assez longue.
Logisticien, ça veut dire quoi ?
Vous avez des gens qui sont capables de faire de l'électricité, des mécanos, des cuisiniers, toute cette logistique qui est nécessaire pour durer, puisque figurez-vous que la France s'en discontinue, et ce depuis 1956, grâce notamment à Paul-Émile Victor et ses compagnons occupent une base en bordure du continent antarctique.
Ça, on monte à bord là avec vous et vous nous faites visiter. Les cabines, ça ressemble à quoi ?
Les cabines, c'est
spartiate.
Bon, c'est spartiate. c'est comme sur tous les bateaux. Vous avez, on appelle ça des bannettes. Et dans ces bannettes, vous avez plutôt des chambres à quatre avec comme seul moment d'intimité votre rideau que vous tirez et puis un petit lavabo, une douche à l'extérieur, toilette à l'extérieur. Bref, c'est assez spartiate.
Ouais. Alors le lieu le plus sympa, sauf quand il y a une tempête et que le porte-conteneur s'arrache, c'est le pont arrière. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on y fait ?
Le pont arrière, c'est là qu'on va s'en griller une. C'est là surtout pour les non-fumeurs, on peut contempler à 180 degrés un spectacle qui est complètement époustouflant. Et pour tous ceux qui ont pris la mer, qui ont pris le large, on a affaire à ces vols majestueux d'albatros, parce que là, on est dans des régions qui sont, somme toute, pleines d'inspiration et très poétiques.
Qui suivent le bateau,
en
permanence.
Je l'ai fait l'hiver dernier de l'autre côté de la péninsule antarctique. Mmh. C'est juste majestueux, c'est juste magique. Et vous vous souvenez de ce poème, ces ailes de géants. L'empêchait de... Etc.
C'est Baudelaire.
C'est Baudelaire et c'est magique.
Stéphane Dugast, on parlait tout à l'heure d'un jeu qui anime l'équipage. Quel est le défi que chacun veut être prêt à être le premier à relever ?
Alors déjà, il y a le premier jeu, c'est d'être le premier à repérer l'albatros le plus majestueux. Le deuxième jeu, d'être le premier peut-être à avoir les manchots, ces fameux manchots, et non pas les pingouins. Et l'autre jeu, c'est d'être le premier à repérer un iceberg, puisque les icebergs, c'est ces grandes cathédrales de glace, ces gros morceaux qui se sont détachés d'un glacier et qui naviguent au gré du vent, des courants, des vagues, et qui tout autour du continent antarctique.
C'est grand comment, un iceberg ?
Ça peut être très très grand en Antarctique, ça peut être très majestueux, ça peut aller à 30 mètres, ça peut aller même un petit peu plus haut. Mais ce qu'il faut savoir sur l'iceberg, c'est que vous avez un huitième qui est immergé et 7/8 qui sont dessous. Donc le danger pour les marins, c'est d'essayer de deviner ce qui se passe dessous, parce qu'il est devant vous, il paraît loin, mais peut-être qu'il a un prolongement dessous. Et toujours est-il que ces grandes cathédrales de glace ont inspiré tous les explorateurs, tous les aventuriers et tous les marins, parce que ça vous rend humble, vous avez une nature qui est puissante, fascinante, mais dangereuse.
Ça veut dire que l'Astrolabe, on essaye d'imaginer, on est à bord, on peut se retrouver face à à côté d'un iceberg, c'est quoi? C'est comme une falaise parfois?
Ça peut être parfois comme une falaise, les icebergs tabulaires. Oui. Sinon, ça peut être comme une dent, ça peut être morcelé. En fait, vous avez un peu toutes les formes d'icebergs. Vous avez les plus beaux, ce sont les icebergs en forme d'arche. Et vous avez ce bleu translucide, puisque les glaces ont été compressées. Des fois, elles manquent d'oxygène et ça peut devenir bleu ciel. Et des fois, c'est très blanc, c'est très éclatant. Et quand vous avez ça qui danse et qui navigue sur l'océan, c'est tout simplement magique.
Et ça chante aussi un iceberg, non? Ça fait du bruit?
Alors, les glaces, oui, ouais. Sidonie, les glaces chantent, les glaces grincent, les glaces claquent.
Elles sont glaçantes, parfois.
Et en fait, tout ça est une véritable symphonie, mais généralement, quand vous entendez un bruit près d'un glacier et que ça claque, c'est qu'il est un petit peu trop tard, parce que le danger, c'est que les grands morceaux de glace se détachent, et en se détachant, tombent à pic, et ça fait un peu comme ça un verre qui tombe sur le sol, sauf que ce qui est dangereux, c'est les éclats derrière. Et les éclats de glacier peuvent tuer.
Stéphane Dugas, dans votre livre L'Astrolabe, le passeur de l'Atlantique, publié aux éditions EPA, vous expliquez pourquoi les hélicoptères jouent un rôle important aussi sur ce bateau, sur cet Astrolabe.
Ils ont deux avantages, Thomas. Le premier, c'est d'éclairer un petit peu la zone de vent quand on est bloqué dans la banquise, quand la banquise vous empêche d'aller plus loin. Donc ça vous permet de voir s'il n'y a pas des zones de passage. Et le deuxième, si vraiment...
Donc l'hélicoptère, je vous interromps, décolle. Et cherche un chemin.
Cherche un chemin sur l'avant, puisque vu du ciel, vous pouvez voir un petit peu les zones libres et vous pouvez deviner l'épaisseur de la glace. Et si vraiment vous êtes bloqué, l'hélicoptère, avec un filet dessous qu'on appelle un sling, vous permet de transporter du matériel et de commencer déjà le ravitaillement.
La curiosité continue sur RTL avec ces questions. Mais que font les humains dans cette terre hostile? Pourquoi la France veut-elle être présente au pôle? À toutes.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
L'Astrolabe, c'est ce navire d'exploration polaire qui permet de ravitailler la base du mont d'Urville en sillonnant l'océan Antarctique, évidemment. Stéphane Dugast, je rappelle que vous êtes journaliste, réalisateur, passionné par les océans et le monde polaire. Grâce à vous, on navigue là entre les icebergs depuis tout à l'heure. Alors, si on essaye de comprendre comment ça marche, combien de temps on met du départ là, de l'île d'Hobart, vous nous avez dit, jusqu'à la base du mont d'Urville? Ça prend combien de temps?
C'est 2700 km en ligne droite. Mais évidemment, quand vous êtes en bateau, tout est sujet aux tempêtes. Et il faut aussi contourner ces icebergs. Vous êtes peut-être aussi bloqué par la banquise. Donc il faut compter une bonne grosse semaine. Et ensuite, s'offre à vous, j'allais dire, la nature qui est la plus fascinante, la plus attirante, mais aussi la plus dangereuse. Parce que face à vous, vous avez cette petite île du mont d'Urville, l'île des Pétrels. Et à 10 km, vous avez cette grande calotte glaciaire qui va culminer jusqu'à 4000 mètres d'altitude, qui est grand comme 28 fois la France, et c'est le continent antarctique.
Et il fait, question idiote, mais il fait toujours froid. On est équipé comment sur un bateau comme ça?
Alors en fait, quand vous êtes en mer, vous avez ces conditions humides en plus, puisqu'il fait froid et ça peut être humide. Et quand vous êtes sur l'île ou sur le continent, les températures peuvent être très très froides. On a constaté au cœur du continent antarctique des températures jusqu'à moins 89 degrés Celsius. Mais néanmoins, à la base de Dumont d'Urville, DDU, la base française, on peut dire que la température moyenne est autour de moins 10 degrés, puisque ça va de moins 40 à 10 degrés.
Pourquoi est-ce que les Français et puis d'autres pays du monde ont décidé comme ça de vivre et de j'allais dire s'approprier, non, parce qu'elle appartient à personne, mais ce pôle sud, pourquoi est-ce qu'il fascine autant les humains?
C'est un continent, Sidonie, vous avez raison, c'est une terre de science et de paix. Et après guerre, après 1945, les hommes ont compris que les pôles avaient un rôle. On les avait mal observés, on avait eu du mal à durer dessus, à rester dessus, parce qu'il faisait trop froid. Donc on avait fait la conquête du pôle nord, du pôle sud, mais c'était très héroïque tout ça, il y a eu beaucoup de morts. Et là, les hommes ont décidé que les moyens qu'on avait mis pour la guerre, pour notamment les opérations de débarquement, les bateaux, les avions, cette chaîne logistique en continu, on allait l'appliquer à la recherche, et qu'en l'appliquant à la recherche, on allait comprendre ces glaces, le rôle qu'il y avait sur le climat, et ça c'est novateur.
Qu'est-ce qu'on a déjà compris grâce au pôle sud?
Bah, grâce au pôle Sud, figurez-vous que les françaises expéditions polaires françaises de Paul-Émile Victor et de ses amis, en carottant cette glace, ils ont compris qu'il y avait le climat de notre planète depuis ses débuts. Et en comprenant ce climat, on a compris qu'il y avait un réchauffement. Et c'est par les pôles qu'on a compris qu'il y avait des dérèglements climatiques.
C'est notre livre d'histoire, notre histoire.
C'est un livre à ciel ouvert. Et puis c'est surtout un livre dans lequel on compulse des pages qui mêlent héroïsme, qui mêlent courage, qui mêlent des fois lâcheté. Parce que quand on est dans ces zones-là, dans l'histoire, les histoires passées, il y a eu pas mal de coups fourrés, mais qui mêlent aussi grandeur de l'homme, parce que c'est, comment vous dire, c'est des terres de légendes.
Et vous racontez ces légendes dans ce livre L'Astrolabe, publié aux éditions EPA. Vous racontez aussi l'arrivée à la base de Dumont-Durville. Et là, c'est la fête. Pourquoi c'est la fête, l'arrivée de l'Astrolabe ?
C'est à la fois la fête, parce que vous voyez les nouveaux arrivants vous relever. Oui. Mais c'est aussi un moment où vous pouvez avoir un spleen.
C'est le ravitaillement quand même. Donc
c'est le ravitaillement.
J'imagine que c'est important. Quoi.
Il y a un peu de
nourriture
ça quand même.
Fraîche, quoi.
Voilà, mais vous êtes extrait du monde et là vous revoyez la civilisation revenir à vous. Et ouais. Vous savez généralement que vous allez devoir repartir parce que les gens sont interchangeables. Donc c'est à la fois un moment de joie pour certains, un moment d'introspection pour d'autres. Et c'est la fin ou le début d'une grande aventure, l'aventure d'une vie.
La France vient d'investir 50 millions d'euros pour construire un nouvel astrolabe, le 4, hein, on a bien compris. Ça a commencé sous Louis XVI et c'était qui le comte
Jean-François Gallo de la Pérouse.
Le comte de la Pérouse. Et donc ça continue aujourd'hui, 50 millions d'euros. Pourquoi on ne le remplace pas par des avions ?
Puisque les Français ont décidé dans les années 80 de construire une piste d'aviation. Et c'est ce pourquoi l'astrolabe d'avant, donc le troisième, avait été construit pour transporter du matériel, des explosifs et construire autour de l'île des Pétrels une piste d'aviation. Mais dame nature a été plus forte.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
La piste a été complètement engloutie à la première tempête avec les courants, etc. Et donc nous, Français, on est obligés de ravitailler par des bateaux. Et ce bateau a été conçu plus moderne, plus costaud, plus moderne. Et il est partagé avec la Marine nationale, l'administration d'État, l'Institut polaire Paul-Émile Victor, et il permet d'assurer ce flot continu. Néanmoins, on a constaté ces dernières années, depuis 5-6 ans, que la banquise était de plus en plus importante à l'approche de DDU, de Dumont-Durville.
C'est plus épais, ça semble paradoxal.
C'est paradoxal, mais il se peut que le continent antarctique, en fondant plus vite, les eaux, si j'ose dire, se déversent à une vitesse très très accélérée, de façon souterraine, autour du continent, ce qui voudrait dire que la banquise est plus épaisse. Donc du coup, ça oblige les hommes à beaucoup d'ingéniosité et à faire du débarquement depuis la banquise.
Les anciens astrolabes, on peut les voir quelque part sur Terre ?
Les anciens
bateaux. Les premiers astrolabes.
Alors l'astrolabe, figurez-vous qu'il y en a un, le premier, il a fait naufrage, le deuxième, il a disparu, et le troisième, il est devenu un navire hôpital pour une ONG nord-américaine, et il navigue au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais il a changé de couleur, il est plus bleu, blanc, rouge, il est bleu et blanc.
Rien n'est perdu. Merci beaucoup. Stéphane Dugas.
Et donc vous publiez avec Daphné Buiron à bord de l'astrolabe explorateur de l'Antarctique aux éditions EPA.
Vous écoutez RTL.